J'aimerais ce matin vous proposer la lecture d'un texte. Vous allez voir que c'est un texte qui n'a à première vue rien à voir avec Noël. Un texte qui parle de mystère, de choses cachées. Et pourtant, dans ce texte, nous voyons là un message de Noël, un message pour aujourd'hui. Alors je vous invite à lire avec moi juste un verset. Un verset dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, d'une manière absolue, indiscutable, le mystère de la piété est grand. En quoi consiste ce mystère? Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Un texte qui parle de mystère, un texte qui parle des choses étranges. Un mystère, c'est quelque chose d'étrange. En français, lorsqu'on parle de mystère, en général, on est dans les histoires des détectives, dans les histoires des enquêtes. Mystère sur l'arrière de l'église Otigny. Mystère sur le silence de la Russie. Vous voyez, on est toujours dans un truc comme ça où on se dit, oh là là, c'est quelque chose qui est là. Et j'aime bien dans ce texte cette idée de mystère. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mystère, c'est un secret. Quelque chose qui a été gardé secret. Mais l'enjeu du mystère, du mot mystère, c'est que c'est un enjeu qui a été révélé. C'est un secret qui a été mis dans la connaissance. Ce n'est pas quelque chose qui est resté simplement secret. Lorsque le mystère, on parle de mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a découvert, dont on découvre seulement la réalité parce qu'elle est maintenant connue. Le mystère de la piété. Dieu a gardé secret pendant longtemps. Il a gardé un secret. Quel était ce secret? C'était le secret de la piété. Dans le contexte de ce texte ici, le secret, c'est l'ensemble de tout ce que l'homme va pouvoir vivre et être et faire avec Dieu. On parle alors du secret du plan de Dieu pour le salut. La Bible le montre. Depuis Abraham, Dieu a mis en place un projet avec l'homme. Dieu dit avec Abraham, je te bénirai. Je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Mais que lui dit d'autre? Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Que lui dit d'autre encore? En toi seront bénies toutes les nations de la terre. On peut remonter un peu plus haut encore. Face au péché d'Adam et Ève. Voilà Dieu qui, malheureusement pour lui, distribue les cartes rouges. Il distribue la carte rouge à Adam. Il dit, à cause de toi, la terre sera malheureuse. Elle ne produira plus que des épines. Tu te battras avec elle. Tu vas devoir travailler dur. Le travail, ça va rimer avec la douleur, la souffrance, pour obtenir de quoi manger, de quoi vivre. Toute la nature est perturbée à cause de toi. Et la carte rouge à la femme. Tes grossesses seront beaucoup plus douloureuses. Il y aura une inimitié. Il y aura une relation difficile avec l'homme. Mais aussi, il y aura une inimitié entre toi et le diable, et le serpent. Et regardez ça. Il dit, sa postérité, c'est la carte rouge plutôt à Satan, hein, au serpent. C'est ça. Alors, il dit à Satan, enfin au serpent, ta postérité, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Mais de quelle postérité parle-t-il? La postérité de la femme. Avez-vous remarqué que Jésus, sa mère, est une humaine. La postérité de la femme. Il s'agissait déjà de Jésus-Christ lorsqu'il parlait de ça. Mais vous voyez, personne ne savait. C'était un secret. C'est quelque chose que Dieu a gardé. Il a conservé cela de manière à ce que les choses ne se révèlent, ne se connaissent, ne se mettent à exécution qu'au temps que Dieu lui-même a fixé, ce temps qui est venu avec Noël. Oui, Dieu a gardé secret le plan merveilleux du salut, et ce plan va se réaliser dans la personne de Jésus-Christ. Et le mystère de la piété, ce grand secret que Dieu nous révèle, ce grand secret que Dieu nous révèle de la manière dont le plan du salut va être fait, oui, c'est quelque chose de grand et d'immense. C'est quelque chose qui doit susciter notre joie, notre bonheur. Vous savez que, tu peux un peu remettre le texte, vous savez que cette phrase-là, Dieu a été manifesté en chair, etc., etc., ça faisait partie des hymnes des chrétiens au premier siècle. Ils chantaient ça. Mais ils chantaient ça parce que il y avait là des vérités théologiques, des vérités absolues sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'était quelque chose qu'ils retenaient par cœur et qui faisait partie de ce en quoi ils croyaient profondément. C'était chanté comme nous chantons aujourd'hui les hymnes chrétiens que nous avons, qui sont des hymnes en rapport direct avec notre confession de foi. En quoi consiste ce mystère? Peut-être que, avant de parler de ça, j'aimerais peut-être juste vous dire pourquoi est-ce que Paul parle de mystère. Le mot mystère à son époque était très important parce que à l'époque de Paul, à l'époque où il écrit, où il travaille et il écrit cette épître, il y avait ce qu'on appelait les religions à mystère. Les religions à mystère, ce sont des religions avec des enseignements, avec des pratiques religieuses secrètes. Il fallait être initié pour pouvoir rentrer là-dedans. Il fallait passer par toute une phase des phases initiatiques pour accéder à ça. C'était en rapport avec des choses que tout le monde ne doit pas savoir. Certaines religions à mystère ont dû même, sous l'Empire romain, être interdites à cause des dégâts qu'ils ont causés à l'intérieur des membres. Ce serait un peu l'équivalent des mouvements ésotériques d'aujourd'hui, des choses qui sont plus de caractère un peu en rapport avec la magie, avec des pratiques occultes. Et ces religions à mystère, évidemment, perturbaient beaucoup la foi des chrétiens de l'époque. Avec leurs enseignements, ils finissaient par tordre la compréhension de l'Évangile. Ils exploitaient, par exemple, toutes les choses cachées, incompréhensibles de l'Ancien Testament, toutes ces choses qui aboutissent à Jésus. Je vous donne juste un exemple. Vous savez, Dieu, pour manifester son opposition et sa difficulté avec les hommes, a envoyé le prophète Osée se marier avec une prostituée. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça ne se fait pas, normalement. Enfin, en toute liberté, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais quand on connaît le principe même de Dieu lui-même, ça devient un problème parce que ça n'entre pas dans la façon dont Dieu nous montre sa loi. Ces choses, et des tas d'autres exemples que l'on peut citer dans la Bible, font partie de ces choses que ces religions à mystère exploitaient pour détourner la foi des chrétiens. Et donc Paul utilise leur langage, mais pour montrer que tous les éléments parfois obscurs dans la Bible, parfois incompréhensibles pour nous, ou même pour les gens de cette époque-là, toutes ces choses n'avaient qu'une seule finalité, n'avaient qu'un seul but, c'était d'aboutir au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que l'apôtre va dire tous ces secrets, toutes ces choses secrètes dans la Bible ont été révélées, ont été connues à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça a pris tout son sens. C'est devenu clair avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Du coup, on découvre donc que la personne de Jésus-Christ est une personne centrale dans la Bible. De l'Ancien Testament, de la première page de la Bible jusqu'à la dernière, la personne centrale de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Plus que de tout autre sujet dont parle la Bible, d'abord et principalement la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Et qui dit parler de Jésus, dit non seulement sa personne, mais aussi son œuvre. Et qui parle de l'œuvre de Jésus-Christ, parle alors principalement de notre salut, de l'intérêt de Dieu pour nous. Parce que quelque part, tout ce qu'il fait, c'est pour permettre que le salut soit possible. Et donc, ce Jésus sur la crèche, ce n'est pas qu'un enfant simplement, c'est déjà le Dieu vivant, le Dieu qui nous visite. On découvre aussi en même temps que sa venue n'est pas un fait du hasard. Nous avons entendu à travers le conte de Yvette, à travers les chants, nous avons bien entendu et compris qu'en réalité, si Jésus-Christ est là, ce n'est pas simplement une histoire de maintenant. Jésus a été annoncé depuis longtemps par des prophètes, par toutes sortes d'événements qui ont marqué déjà, qui ont annoncé à l'avance sa venue. Alors, en quoi consiste le mystère? Ce mystère consiste en ce que Dieu a envoyé son Fils. Et que son Fils, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et regardez ici, les éléments qui sont donnés là, c'est des éléments qui manifestent l'évolution dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a été manifesté en chair. Première chose, première réalité dans cette merveilleuse révélation. Dieu est venu parmi les hommes. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un être fabriqué par Dieu pour envoyer aux hommes. C'est Dieu lui-même. Il est devenu semblable aux hommes. Il est venu visiter les hommes. C'est Dieu donc qui fait la visite des hommes. Vous savez, dans la Bible, il y a cette parabole avec la vigne et les vignerons. Parce que vous connaissez cette parabole où le maître s'en va en laissant sa vigne à ses ouvriers. Et puis, il s'en va et quelque temps après, il envoie des serviteurs pour pouvoir s'enquérir des nouvelles de sa vigne. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent les serviteurs, quick, on les tue. Il envoie encore d'autres serviteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Et le maître dit lui-même, ok, je vais aller moi-même. Je vais aller moi-même voir ce qui se passe. Dieu vient nous visiter. Il vient pour pouvoir régler le problème de l'humanité, le problème du péché. À travers cette réalité, nous voyons la double nature de Jésus-Christ, pleinement Dieu et pourtant pleinement homme. Deuxième chose qu'on voit, justifié par l'Esprit. Sur la terre, durant son séjour terrestre, Jésus fait un parcours sans faute. Il est correct avec Dieu au point qu'il est déclaré juste par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il le fait conformément à ce que Dieu a voulu réaliser. La troisième chose que nous voyons, c'est que les anges sont témoins de l'œuvre de Jésus-Christ. De quoi il s'agit? Il s'agit déjà de l'anticipation à la résurrection, où les anges vont admirer l'ensemble de l'œuvre du Seigneur et vont voir que le Seigneur est puissant sur cette terre. Ces éléments sont importants dans la déclaration de notre foi. Il est prêché aux nations et cru dans le monde. L'impact de Jésus-Christ est réel. Ce n'est pas simplement un enfant qui est resté sur la crèche et qui est un peu comme moi, j'imagine un peu la Noël pour certains comme étant, vous savez, les gens qui achètent les petites statuettes là, les petites figurines là, et ils en ont plein comme ça avec le petit enfant, Marie, les moutons, les vaches, les bergers, etc. Et alors chaque période de Noël, un peu au début vers le 15 décembre ou peut-être un peu plus tôt, on fait son petit sapin et on met son petit personnage là, et voilà, les gens passent, ils admirent, waouh, le petit Jésus, ah, il a un gros ventre, le petit Jésus, son ventre est tout rond, qu'est-ce que c'est beau, etc. Et puis, arrivé au 29 décembre, pour fêter le nouvel an quand même, à Saint-Sylvestre, je sais même pas c'est qui c'est Saint-Sylvestre, enfin bon, c'est pas grave. Donc, pour fêter ça, et alors à ce moment-là, on enlève tout ça. On les remet dans le carton. Rendez-vous l'année prochaine. Mais ce texte nous permet de dire que c'est pas vrai. Il n'est pas resté un petit enfant. Il n'est pas resté bloqué à l'événement de Noël. C'est plus que cela. Noël n'est qu'une porte qu'on ouvre. Et à partir de Noël, le salut, le mécanisme, le processus du salut s'enclenche. L'œuvre de Jésus-Christ s'enclenche. La révélation de Jésus-Christ commence à paraître de plus en plus. Noël n'est qu'une porte ouverte parce que Jésus va vivre sur cette terre et il va avoir un impact sur l'humanité. Des hommes vont pouvoir tourner le cœur vers lui. Des hommes vont entendre son évangile. Des gens seront courageux pour parler de lui et même prêts à mourir pour lui. Des hommes entendront, croiront en lui, croiront à ce message et constitueront une communauté immense avec des milliards de gens qui partagent cette foi en lui, en Jésus-Christ. Pourquoi je parle d'un texte pareil à Noël? Pourquoi est-ce que je viens avec ça? Parce que je veux que nous comprenions ce que nous savons déjà d'abord. C'est que c'est pas par hasard. Il n'est pas venu comme une tache d'huile, un petit accident, un hasard de l'histoire. Tout a été préparé à l'avance. Dieu a gardé le secret parce que c'était quelque chose d'important qui devait se préparer d'une manière soignée, d'une manière sérieuse. Un peu comme vous, quand vous préparez un projet d'une manière sérieuse, vous ne passez pas devant le toit, devant tout le monde, en disant, les gars, vous savez quoi? J'ai un projet, écoutez-moi. On fait pas ça. On le prépare dans son cœur. On le prépare jusqu'à ce que le projet soit solide, soit consistant. Alors, on peut en parler. Dieu a préparé cela. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il pris les choses aussi sérieusement? Parce que Dieu avait en cœur vous, toi et moi. Parce que Dieu voulait utiliser cette œuvre, cette opportunité pour ton salut, pour mon salut. Ce texte, si je peux en parler, c'est pour que nous ne nous arrêtions pas simplement à la crèche et que nous ne regardions pas que Jésus là à la crèche, mais que nous l'envisageons dans son œuvre entière. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous sauver. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous acceptions le cadeau qu'il nous offre. Ce cadeau, c'est l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi je parle de ce texte? Parce qu'il est question de mon engagement aussi. L'impact du message Jésus-Christ porte aussi sur moi. Pour que moi aussi, demain, aujourd'hui, maintenant, demain, je sois moi aussi porteur de ce message, que je puisse dire aux gens autour de moi, celui qui est né et que nous fêtons à Noël, c'est plus qu'un enfant. C'est le Dieu vivant. C'est celui qui est venu nous sauver. C'est celui qui est venu témoigner l'amour de Dieu et qui est venu ainsi nous engager dans son œuvre. Il n'est donc pas un événement historique, mais il est celui qui vient sauver l'homme. Nous sommes en 2016, 2016 ans après sa venue sur la terre, on parle encore de Jésus. Certains, ça les énerve. Certains, j'ai entendu à la radio le vendredi passé, le nombre de fois où j'ai entendu des journalistes, se moquer de Noël, se moquer de tout ce qui est derrière Noël, surtout le Noël chrétien, parce que le Père Noël, il est inattaquable. Après tout, pourquoi est-ce qu'on va se foutre du Père Noël? Il est déjà rigolo en lui-même. Il fait déjà rire par ce qu'il est, donc on va pas commencer à se moquer. Mais l'autre Noël, où l'on parle de l'amour de Dieu, où l'on parle de Jésus, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'acharne. Vendredi, c'était incroyable. Je ne sais pas s'ils se sont entendus. Moi, la chaîne de la radio que je suivais, ils se sont entendus sur moi, mais presque toutes les émissions, ils y revenaient. Même si les hommes n'aiment pas, mais Jésus est venu pour sauver l'humanité. Alors, tu es là ce matin. Je te tutoie parce que je voudrais que mon message soit un message personnel, c'est-à-dire à toi, pour toi, pas pour le voisin, pas pour le copain, pas pour l'humanité dans laquelle je baigne, mais pour toi personnellement. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin, j'aimerais te rappeler que 2016 ans encore après, Jésus-Christ est vivant. Bien sûr, il est au ciel, puisqu'il vient du ciel. Il n'est pas de la terre, il est Dieu. Bien sûr, il est au ciel, mais il a laissé un message, le message d'amour. Il a laissé un cadeau. Il a dit, est-ce que tu veux bien le prendre ? Alors la question c'est, est-ce que tu as déjà pris le cadeau de Jésus ? As-tu déjà accepté Jésus comme le cadeau de Dieu pour le salut, pour ta paix avec Dieu ? Jésus est le chemin qui nous conduit vers Dieu, vers le ciel d'où il est venu. Il a fait l'aller-retour. Il connaît ce chemin. Que reste de Noël pour toi ? Du vrai Noël, du Noël qui est Noël de la porte d'entrée pour rentrer dans le processus du salut et de la relation personnelle avec Dieu. Que reste-t-il de ça ? Noël est-il juste pour toi une fête où tu amasses des cadeaux, tu achètes pour plein de gens, où tu donnes des coups de fil à des gens avec qui tu n'as plus parlé depuis longtemps, où tu invites à manger des gens ? Est-ce Noël ? C'est juste un événement historique, ponctuel, juste une période. Après ça, terminé, on range tout dans le papier, on range tout dans le carton, on bat tout et on reprend ce qu'on pense être la vraie vie. Ou est-ce Noël pour toi encore d'une vitalité réelle aujourd'hui, 2016 ans après ? Est-ce que ça te parle ? Voilà pourquoi... Si Dieu s'est donné la peine de révéler ce mystère, si Dieu s'est donné la peine de faire de prendre tout le soin pour que tout ça, ça soit bien, tout ce secret soit mis à jour à un bon moment, au moment où cela sera le plus efficace pour nous. Si Dieu s'est donné le mal pour tout ça, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux, parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut. Voilà le sens de Noël. Voilà le sens de Noël. Amen.